Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia, et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi.
Il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute!
Salut Laetitia!
Salut Hélène! Alors aujourd'hui on retrouve Marie-Charlotte Parfait qui va nous parler de parentalité et de conciliation des temps de vie en entreprise.
Oui, c'est effectivement deux sujets qui soulèvent pas mal de questions, notamment sur l'impact que la parentalité a sur la carrière des femmes et les inégalités que ça peut créer aussi.
Ouais, la bonne nouvelle, c'est que cet été, le congé paternité s'est allongé. Il me semble qu'il est passé de 11 à 25 jours. D'apparence, on peut s'en réjouir.
Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle en soi pour la conciliation des temps de vie. Mais je te propose qu'on écoute ce que Marie-Charlotte a à nous dire sur le sujet, parce qu'on va voir que c'est pas forcément suffisant pour résorber les inégalités femmes-hommes au travail. Bonjour Marie-Charlotte, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui.
Bonjour Hélène, ravie également d'être là.
Merci
pour cette opportunité.
Avec grand plaisir. Moi, je suis hyper contente qu'on ait ce temps ensemble pour discuter parce que tu travailles sur des thématiques qui m'intéressent beaucoup et je pense que c'est intéressant de pouvoir en parler ici. Mais du coup, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu répondes à notre petite question rituelle qui est de savoir en fait quel est ton métier.
Aujourd'hui, mon métier, c'est d'être entrepreneur. Et donc d'avoir fondé une start-up sociale qui s'appelle À Part Entière. Mais ça fait un an qu'elle existe, cette start-up. Et avant ça, en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans en marketing dans la grande consommation et particulièrement en marketing dans des groupes agroalimentaires. Et c'est en fait à l'arrivée de mes deux petites filles que j'ai eu envie d'ordonner un peu de sens à ce que je faisais, à ce que je proposais et d'aligner vraiment voilà, mes valeurs avec mon travail. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça que j'ai créé À Part Entière.
Trop cool. Donc, t'es devenue maman, gros déclic perso et pro. Et du coup, avec À Part Entière, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est À Part Entière?
Donc alors, À Part Entière, on accompagne la parentalité en entreprise au sens large.
Okay.
Et en fait, on a, on va dire, deux briques principales. Une brique qui est de la sensibilisation auprès des managers et une autre brique qui est plus côté collaborateur où là, en fait, on va proposer donc des services clés en main aux collaborateurs avec soit des parcours d'accompagnement, de coaching collectif ou individuel, soit des actions plus ponctuelles de webinars ou de conférences.
Ouais.
Et sachant que, en fait, quand on dit parentalité au sens large, en fait, on met plusieurs thématiques derrière. Donc, les grandes thématiques qu'on traite, c'est donc congé, maternité, paternité. C'est conciliation des temps de vie. C'est les deux principales. Et ensuite, avec la crise, donc il y en a des nouvelles qui sont arrivées, comme les nouveaux modes de travail, le sens au travail. Et on a également une autre thématique qui nous tient à cœur chez À Part Entière, c'est travailler sur la diversité, dont l'égalité femmes-hommes, dont la promotion de l'égalité femmes-hommes.
Ouais.
Donc, en fait, voilà, on a un peu toutes ces thématiques derrière, aujourd'hui, ce qu'on appelle la parentalité en entreprise.
Ok. Bon, moi, je trouve effectivement que c'est un sujet qui est intéressant. C'est vrai que c'est surtout sous l'angle de l'égalité femmes-hommes que c'est un sujet qui m'interpelle. Pour toi, c'est quoi pourquoi c'est intéressant et important, selon toi, du coup, de traiter cette question-là de la parentalité dans le cadre du travail? Parce que ça, on pourrait très bien se dire, c'est l'intimité, c'est la vie perso, ça n'a rien à faire, tu vois, dans la sphère du travail. Donc, pourquoi toi, est-ce que tu te dis, il y a un sujet, il faut parler de la parentalité dans le cadre du travail?
Ouais, alors bah déjà, pourquoi est-ce qu'il faut parler de la parentalité dans le cadre du travail? Déjà parce qu'en fait, on n'arrête pas d'être parent en rentrant dans son entreprise. En fait, on est parent à la maison et aussi au travail. On n'est pas des êtres, entre guillemets, binaires, quoi. Donc, dans ce sens-là, la parentalité est doit, à mon sens, s'intégrer, doit être partie prenante des entreprises. Donc on l'est chez soi, mais on l'est aussi au travail. On doit aussi régler au travail parfois des problèmes justement liés aux enfants. Est-ce que mon enfant est malade, j'ai un problème de garde, voilà. Donc en fait, c'est dans ce sens-là que la parentalité a toute sa place en entreprise. Et après, ce que j'avais envie de rajouter aussi, c'est que en fait aujourd'hui, la parentalité et plus globalement, en fait, la conciliation des temps de vie, parce que c'est de ça dont il s'agit.
Ouais.
C'est du coup comment est-ce que j'arrive à trouver une harmonie entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc ça, c'est un enjeu qui est d'autant plus fort pour les parents, mais finalement, qu'on soit parent ou pas, c'est un enjeu pour tout le monde. Et donc cet enjeu de conciliation des vies, en fait, aujourd'hui, ça devient un enjeu clé et les entreprises ne peuvent plus aujourd'hui se passer de ce sujet-là. En fait, c'est devenu un facteur clé d'attraction des talents. Aujourd'hui, il y a 7 salariés sur 10 qui placent la conciliation des temps de vie au même niveau que le salaire dans le choix de leur entreprise. Parmi surtout les salariés des nouvelles générations, donc c'est un sujet qui a pris de l'ampleur et qui est amené, je pense, à en prendre encore énormément dans les années à venir. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est un sujet qui doit absolument être traité par les entreprises si elles veulent être capables d'attirer des talents et aussi de les retenir, parce qu'en fait on voit aussi que pareil, selon une étude en fait de l'Observatoire de l'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise, il y a 25% des salariés qui envisagent de quitter leur entreprise pour avoir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc c'est un vrai enjeu. C'est beaucoup. Donc c'est aussi un vrai enjeu de marque employeur de l'entreprise pour savoir attirer et retenir ses talents. Donc c'est pour moi aussi une des raisons pour lesquelles les entreprises doivent se saisir de ce sujet-là. Mais il y en a une autre aussi, enfin il y en a d'autres si ça t'intéresse de savoir les autres.
Oui, ça m'intéresse, donc vas-y.
Pour moi, il y a une autre deuxième raison, et je pense que c'est aussi important de le mettre en avant, notamment pour les dirigeants et pour les entreprises, c'est qu'en fait, mettre en place une politique de conciliation des temps de vie et donc de parentalité, c'est quelque chose de rentable. Pourquoi c'est rentable? Parce que, ça va favoriser le bien-être des salariés.
Okay.
Et encore une fois, on sait qu'un salarié épanoui, il est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 9 fois plus fidèle et 31% plus productif. Donc ça, c'est une étude Harvard et MIT qui l'avait démontré. Donc voilà, on sait qu'il y a un vrai impact. Et en plus, pour les entreprises où il fait bon travailler, il y a des valorisations en bourse qui sont 4 fois supérieures à la moyenne de l'indice boursier. Donc voilà, c'est un vrai impact. Ce qui est super, je trouve que c'est un super cercle vertueux, parce qu'en fait travailler sur le bien-être, ça va avoir un impact sur la performance économique de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même génial. Et puis en plus, c'est ce qu'on disait, c'est que pour moi il y a un deuxième enjeu là-dedans qui est hyper important, c'est de faire progresser l'égalité femmes-hommes. Et en fait, on sait aussi que le fait de faire progresser l'égalité femmes-hommes et donc d'avoir plus de femmes dans les membres de comités de direction, c'est aussi un facteur d'amélioration de la performance. Et encore une fois, il y a une étude qui a été faite dans les entreprises où il y avait une forte mixité parmi les cadres dirigeants, c'est-à-dire où il y avait au moins plus de 30% de femmes dans les comités de direction, le résultat d'exploitation était 2 fois plus élevé que la moyenne. Donc, encore une fois, c'est très bénéfique pour les entreprises. Donc, en fait, c'est pour tous ces sujets que je pense que l'entreprise aujourd'hui doit vraiment se saisir de cette thématique-là. Donc, il y a vraiment le côté marque employeur, attraction, rétention de ses talents. Il y a le côté améliorer le bien-être. Il y a le côté améliorer, faire progresser l'égalité femmes-hommes dans son entreprise. Et tout ça, ça a un impact en fait très positif sur les performances économiques et la rentabilité. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison de ne pas traiter ce sujet-là pour une entreprise. Et aussi, quand même, ce que je voudrais mettre en avant, parce que bon, là, on a parlé de données hyper chiffrées, de données hyper très économiques. Mais quand même, ce que je voudrais mettre en avant aussi, c'est que nous, dans les entreprises qu'on accompagne, ce qu'on voit, c'est que finalement, les personnes qui décident de mettre en place des vraies mesures qui favorisent la parentalité et la conciliation des temps de vie, c'est avant tout parce qu'ils croient aussi à une certaine vision de l'entreprise et qu'ils partagent voilà, des valeurs qu'ils ont envie de promouvoir aussi auprès de leurs collaborateurs et auprès des nouvelles générations de parents.
Oui, tu as raison, c'est intéressant de se dire que ça ne suffit pas de mettre en place des choses, mais c'est vrai que si ça peut déjà être intégré dans la vision et les valeurs, c'est quand même plus facile pour bouger sur ces questions-là. Moi, il y a un truc que tu as dit qui m'a interpellée, évidemment, c'est que tu as tout de suite fait le lien avec l'égalité femmes-hommes et notamment le fait que c'est bénéfique pour une entreprise d'avoir plus de femmes voilà, à des postes de direction, donc des postes à responsabilité. Est-ce que du coup, il faut comprendre que la parentalité a un impact du coup sur la position des femmes au sein des entreprises à ce type de poste-là? Et si oui, du coup, pourquoi et pourquoi il faut changer ça?
Donc oui, effectivement, comme tu dis Hélène, la maternité a un impact sur la carrière des femmes. Et plutôt un impact négatif, du coup, parce qu'il y a 84% des femmes qui déclarent que la maternité a eu un impact négatif sur leur carrière. Donc, c'est un fait, c'est encore réel aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons à cela et plusieurs facteurs, en fait. Déjà, je dirais que ça commence par un premier facteur qui est l'absence de l'entreprise pendant une période de plusieurs mois qui est liée du coup au congé maternité que ne vit pas le papa ou le second parent. Mmh. Donc ça c'est la première chose, c'est que c'est déjà aussi un facteur de discrimination. De ne pas pouvoir participer de la même manière à la vie de l'entreprise pendant ces mois-ci. Et voilà, et que ce soit uniquement réservé aux femmes, en fait. Donc ça, je dirais que c'est là où s'installe, en fait. C'est là où, à partir de ce moment-là, que vont se creuser les inégalités, en fait. Les écarts de salaire vont se creuser à partir du retour de congé maternité entre un homme et une femme. Une femme va avoir du mal aussi à retrouver sa place. À reprendre ses marques, voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là que commencent les possibilités de promotion. Sont parfois aussi plus difficiles. Et c'est là où entre un autre facteur qui est en fait, je vais appeler ça le facteur de représentation un peu collective, où en fait il y a les attentes des managers qui peuvent aussi changer par rapport à une femme qui vient d'avoir un enfant de manière biaisée mais inconsciente. Donc par exemple le manager peut se dire oui elle a un enfant donc je ne vais pas lui confier cette nouvelle mission qui va lui demander soit beaucoup d'investissement de travail, soit de beaucoup voyager pour la préserver ou je vais mettre quelqu'un de plus disponible.
D'accord.
Mais en fait, ça c'est du coup des représentations un petit peu biaisées. Déjà, déjà la première chose c'est d'en parler vraiment en fait à la personne en face et de lui dire est-ce que ça t'intéresse ou pas cette mission et du coup qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place les choses. Mais donc du coup il y a un peu cette représentation biaisée qui va venir de la part du manager, donc biaisée mais inconsciente et qui est pas toujours avec une mauvaise intention. Et il y a une deuxième aussi représentation qui est qu'en fait les femmes vont aussi s'auto-censurer dans leur progression. Il y a quand même 60% des femmes qui déclarent s'auto-censurer parce que elles veulent justement conserver ce bon équilibre pro-vie perso et qu'elles ont peur de si elles doivent monter dans les responsabilités, de plus pouvoir préserver cet espace pour leur vie personnelle et ça leur convient pas.
Ouais.
Donc il y a aussi cette auto-censure. Et je dirais qu'il y a encore un autre facteur qui est aussi que les femmes ont du mal aussi à s'identifier aux modalités d'exercice du pouvoir actuel, donc à savoir les horaires, à savoir le rapport au pouvoir et à la hiérarchie, la façon de manager. En fait, aujourd'hui, elles ont envie d'autre chose. Elles ont aussi envie de créer des modèles un peu différents. Elles ont besoin de flexibilité. Et donc, tout ça fait que finalement, aujourd'hui, les femmes sont peu représentées du coup dans les postes de comité de direction. Donc c'est hyper complexe comme sujet.
Oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais. C'est pas forcément évident. On peut pas dire la raison c'est ça, on traite le problème et puis terminé quoi. C'est une imbrication quand même
de plein
de facteurs qui sont et d'ailleurs qui peuvent être j'imagine très personnels en fait selon les parcours
de
vie, selon les envies de chacun parce qu'en fait c'est ok d'avoir envie d'équilibrer sa vie pro et perso et de pas forcément vouloir un poste à responsabilité mais en fait ce qu'il faudrait vrai, c'est plutôt que chaque personne et chaque maman, en l'occurrence, puisque c'est de ça dont on parle, et des options, en fait.
Exactement.
Choisir et ne se sente pas bloquée ou freinée dans sa carrière professionnelle, quelle qu'elle soit, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident de trouver un espace pour en parler ou pour... ne serait-ce que l'imaginer. Donc, est-ce que toi, c'est des choses que tu... Enfin, qu'est-ce que tu constates quand tu accompagnes les entreprises sur ces sujets-là, en fait? Est-ce que tu as pu voir des évolutions? Enfin, ta boîte est récente, mais c'est comme c'est un sujet que tu connais bien. Est-ce qu'il y a eu des évolutions récentes qui montrent qu'on va quand même vers du mieux? Ou comment ça se passe, en fait?
Ouais. Alors, je pense vraiment que on va dans la bonne direction, qu'on va faire du mieux, qu'en fait, aussi les nouvelles générations de parents qui travaillent en entreprise font aussi bouger les choses, qu'ils soient salariés, qu'ils soient managers ou qu'ils soient aussi membres des ressources humaines, ils ont envie de porter ce sujet-là. Et aussi les jeunes dirigeants d'entreprise, ils ont envie de porter ces sujets-là. Donc clairement, il y a une grosse évolution et une grosse prise de conscience sur comment favoriser autant la femme que l'homme dans l'évolution de la carrière. Donc ça, franchement, il y a une énorme prise de conscience depuis quelques années. Et j'ai envie de dire que là, ça s'est énormément accéléré avec la crise du Covid. Donc en fait, j'ai envie de dire que d'ici, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ça commençait, mais c'était plutôt parmi les nouvelles générations, on va dire, de parents que ça arrivait. Là, la crise du Covid, ça a justement flouté tous les espaces entre vie pro et vie perso. Tout s'est entremêlé et là, l'entreprise a vraiment pris conscience aussi du besoin d'accompagner ses collaborateurs dans cette conciliation-là et en fait dans cette harmonie-là. Donc ça a été, je pense, aussi un vrai choc pour les entreprises. Et aujourd'hui, enfin moi, parmi les entreprises avec lesquelles je parle, il n'y a pas une entreprise qui ne dit pas que la conciliation des temps de vie n'est pas un enjeu pour elle. C'est clairement un enjeu. Mais du coup, que ce soit effectivement pour la favoriser au niveau des parents, mais pas que, hein, c'est vraiment pour tous les collaborateurs, pour vraiment favoriser ce bien-être. Favoriser la fidélisation aussi des salariés dans leurs entreprises et prévenir aussi des risques psychosociaux comme le burn-out, par exemple. Ouais. Donc c'est vraiment un sujet qui est pris de manière très globale par les entreprises. Et je dirais aussi qu'il y a aussi le gouvernement qui a pas mal agi en fait ces derniers temps sur ce sujet de la parentalité, de la petite enfance. Ouais. Et de l'importance aussi des ce qu'on appelle donc les 1000 premiers jours de l'enfant, qui correspondent en fait aux 4 mois de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, qui est en fait qui a été du coup analysé et défini donc par les neurosciences comme vraiment une période hyper importante dans la construction du cerveau de l'enfant et dans son développement futur. Et donc c'est vrai que tout ce qui est acquis à cette période-là, c'est très important pour le développement de l'enfant après. Bien que, évidemment, le cerveau est plastique et peut, il pourra toujours s'adapter après les 2 ans de l'enfant. Mais en tout cas, ce qui se passe là, de 4 mois à 2 ans, c'est des choses qui peuvent s'acquérir pour toute la vie. Donc, c'est hyper important de le mettre en avant. Et donc, il y a un dossier, le gouvernement a travaillé sur ce qu'il appelle ce dossier 1000 jours pour mettre en place donc des nouvelles mesures pour accompagner les parents. Et il y a donc notamment, de ce groupe de travail 1000 jours, il y a notamment l'allongement du congé paternité qui est sorti en fait de cette réflexion-là en disant il faut aujourd'hui les papas et les second parents ont toute leur place à l'arrivée de leurs enfants, il faut qu'ils puissent prendre leur place et se sentir intégrés à part entière, donc on leur propose, on étend le congé paternité qui passe de 11 à 25 jours et maintenant ils peuvent vraiment bénéficier d'un mois et avec ce mois-là, donc ils peuvent à la fois apprendre à faire connaissance avec leur enfant, prendre part du coup à la vie de la famille et aussi, si besoin, épauler, épauler la maman, être aussi une présence pour la maman qui peut en avoir besoin.
Et est-ce que tu penses que ce type d'action, parce que c'est vrai que c'est assez significatif, l'allongement du congé pour le papa ou le second parent, est-ce que tu penses que ça peut contribuer à réduire du coup les inégalités femmes-hommes au travail sur les questions de la parentalité et l'impact que ça a du coup sur les carrières professionnelles. Parce qu'on peut, on pourrait se dire, ok, le papa il est, ou le deuxième parent est un peu plus à la maison, donc ça enlève en gros une charge sur la femme qui peut plus s'investir dans sa carrière ou en tout cas faire les choix qui lui semblent bons. Tu penses que ça peut aider ça vraiment?
Ouais, alors,
c'est un peu bon, pas alors, forcément d'impact quoi.
Alors en fait, ce qui a été démontré aussi pareil avec les études, c'est que plus les papas ou les seconds parents s'impliquaient dès le départ dans les tâches ménagères, plus en fait ça durait toute la vie. C'est une habitude en fait qui est prise. Voilà. Donc c'est bon à savoir. Donc il ne faut rien lâcher dès le début.
Exactement.
Donc ça c'est hyper intéressant. Et donc je pense qu'effectivement l'allongement du congé paternité va permettre, enfin est une étape dans cette progression là. Ça permet donc aux parents, enfin aux papas, aux second parents d'être, de faire connaissance avec leur bébé, puis aussi vraiment de prendre possession de la maison et effectivement des tâches ménagères domestiques. Mmh. Après, il faut pas non plus se leurrer, un mois, c'est bien, mais ça reste court. D'ailleurs, c'était pas la recommandation vraiment initiale en fait de toute la commission qui a travaillé autour du dossier 1000 jours. C'était d'avoir un congé qui soit de plusieurs mois pour le papa ou le second parent, et globalement de réformer aussi en fait ces congés parentaux, parce que se dire aussi que donner en fait finalement 2 mois et demi à la maman après l'arrivée de son enfant, c'est peu aussi en fait. Ouais. Donc l'idée c'est de réformer tout un peu de manière globale, mais plus tard, et d'équilibrer peut-être encore davantage le congé entre ce que peut avoir la maman et ce que peut avoir le papa ou le second parent. Donc comme le font déjà les pays nordiques en fait, et où là voilà, il y a une vraie prise de responsabilité qui se fait sur plusieurs mois et qui s'ancre en fait dans la durée.
Toi, de tes interventions et tes discussions avec les entreprises, et puis du coup tes rencontres avec les collaborateurs, c'est accueilli comment en fait le fait de travailler sur ces questions-là, déjà en interne, mais aussi par exemple l'allongement du congé paternité? Est-ce que les entreprises le prennent bien? Est-ce que les papas ou les deuxièmes parents le prennent, ou l'envisagent, ou enfin tu vois comment ça se met en place? Tu constates quoi toi?
Moi de manière générale, je constate un très bon accueil de la mesure, en tout cas au niveau des RH, ouais. Des collaborateurs aussi, dans les entreprises qui sont, on va dire, conformes à la loi, c'est-à-dire qui suivent vraiment la loi sur le congé, les jours donnés par la loi pour le congé paternité. Parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres entreprises qui sont déjà en fait en avance sur ces sujets-là.
Okay.
Et des entreprises notamment avec lesquelles on travaille, qui ont déjà signé par exemple le Parental Act. Donc le Parental Act, c'était justement pouvoir proposer au papa, au deuxième parent, un mois de congé payé à 100% avec la maman. Donc, il y a déjà des entreprises qui avaient en fait anticipé cette loi-là depuis un an. Et donc, c'est vrai que nous, si on travaille, soit on travaille pas mal avec des entreprises qui avaient anticipé cette loi-là, on travaille aussi avec des entreprises qui vont bien au-delà de ça. Donc, par exemple, on a une entreprise qui, eux, on dit, en fait, on donne au papa ou au second parent là, exactement le même temps de congé que la maman, donc 4 mois. Ça c'est génial, donc c'est assez rare mais c'est génial. Et puis après c'est vrai que oui, il y a aussi d'autres entreprises où là effectivement qui sont, on va dire, pas forcément mieux disant que la loi, qui avaient suivi en fait, qui avaient choisi de se conformer à la loi, et qui aujourd'hui accueillent ça de manière positive parce que en fait ils sont conscients que c'est une avancée, et que c'est une avancée qui va dans le bon sens en fait, après c'est vrai que évidemment ça va nécessiter de l'anticipation et de l'organisation au sein de l'entreprise.
Oui, il faut repenser un petit peu tout ça, mais le congé en tout cas existant aujourd'hui, ouais. Il me semblait avoir lu quelque chose qui disait qu'il n'était pas forcément beaucoup pris dans sa globalité, ouais. Par exemple. Et du coup, moi je me dis, c'est super parce qu'au moins il y a l'option pour les papas ou les seconds parents qui veulent s'investir un peu plus, avoir plus de temps à la maison, ouais. avec le bébé, avec la maman. Mais est-ce qu'ils vont vraiment le prendre?
Le prendre.
Et du coup, s'il n'est pas pris, ou en tout cas pas dans sa globalité, finalement, c'est peut-être pas... Enfin, est-ce que c'est un outil qui est suffisant pour rééquilibrer, tu sais, les inégalités femmes-hommes dont on parlait et du coup l'impact que ça peut avoir sur les carrières professionnelles.
Alors, c'est un des outils, mais c'est pas le seul. Et effectivement, je pense que pour favoriser le fait, en fait, le problème du congé paternité, c'est qu'il n'est pas toujours compensé à 100% en termes de salaire par l'entreprise.
Donc, ah oui, du coup, c'est pas motivé, enfin, c'est pas, ça t'incite pas spécialement
voilà.
Aller au bout, quoi.
Voilà, donc ça t'incite pas spécialement à aller au bout. Donc, une des solutions, ben, ça peut être effectivement que l'entreprise le compense à 100%. Donc ça, déjà, voilà, c'est plus incitatif. Après, c'est aussi bah, dans les entreprises, comment dire, rendre en fait ça normal, en fait, rendre normal, normaliser en fait le fait de prendre un congé paternité, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est juste quelque chose de normal en fait. Donc voilà, c'est pas quelque chose non plus qui va pénaliser. Ça fait partie, voilà, c'est de dire, bah nous, ça fait partie des pratiques qu'on trouve normales et que c'est un temps qu'on trouve normal que le papa ou le second parent doit prendre, voilà, pour faire connaissance avec son bébé et puis pour être aussi présent auprès de la maman, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a aussi un peu cette partie, effectivement, comment dire, l'entreprise doit se positionner un peu en tant que facilitateur pour inciter positivement. Après, effectivement, on peut pas obliger, mais au moins inciter positivement les salariés à le prendre. Ça, c'est la première chose. Mais après, encore une fois, je ne pense pas que ce soit le seul outil pour vraiment régler entièrement le problème d'inégalité, des inégalités femmes-hommes en entreprise. Mais en tout cas, c'est un outil, je pense, très important si le congé paternité devient un congé paternité de plusieurs mois.
Oui, en tout cas, pour tout ce qui est les sujets autour de la parentalité, c'est quand même un outil qui est, voilà, qui est sympa à avoir
dans
ta outil, ça c'est clair. Ouais. Mais comme tu le disais, ça ne fait pas tout. Et comme tu le disais au tout début, quand tu t'as présenté ce que tu fais avec à part entière, tu as parlé de sensibilisation.
Oui.
Tu as parlé de valeurs et de vision aussi pour les entreprises. J'imagine qu'il y a du boulot à faire de ce côté-là sur comprendre aussi d'où viennent ces inégalités, parce qu'en fait, on les constate, mais c'est pas forcément évident de comprendre d'où elles viennent. Et comme tu parlais aussi, par exemple, du manager qui peut avoir faire des projections un petit peu, mais pas forcément consciente sur ce que veut ou pas une salariée jeune maman. Ça me paraît être un volet hyper important, du coup, de sensibiliser, de déconstruire aussi peut-être les a priori, les préjugés qu'on peut avoir sur ces questions-là.
Nous, on a vraiment cette double casquette. Donc, la première casquette qui va un peu être effectivement de déconstruire. Donc là, c'est plus de la sensibilisation, effectivement, manager. De la sensibilisation, effectivement, comme on l'a vu, à ce qu'on appelle... un peu les préjugés en fait et du coup de sensibiliser en fait à c'est quoi les vrais besoins des jeunes parents aujourd'hui, donc ça on le fait. Après ça reste de la sensibilisation, et en fait c'est vrai que moi ce que j'aime bien aussi c'est notamment dans la partie quand on accompagne les collaborateurs et qu'on propose des services d'accompagnement notamment à la gestion du congé maternité paternité ou la conciliation des temps de vie. Là c'est aussi hyper intéressant parce qu'en fait on est directement en prise avec l'action, c'est-à-dire que là, ça va être soit via des séances de coaching individuel ou collective, où en fait, on va pouvoir aussi coacher les parents sur, sur la mise en place d'actions concrètes qui vont correspondre à leurs rêves, en fait, à leurs aspirations. Et en fait, cet accompagnement a la particularité de se faire en couple. Hyper intéressant. Donc, du coup, on accompagne le collaborateur ou la collaboratrice de l'entreprise avec son ou sa conjointe, s'il y a son ou sa conjointe. Et donc là, ce que je veux dire, c'est que là, c'est hyper puissant parce que du coup, on peut vraiment aider le couple concrètement à mettre en place, en fait, leurs aspirations et leurs rêves dans cette conciliation des temps de vie. Et donc, ça, c'est aussi hyper concret. C'est pour ça que pour moi, il y a cette sensibilisation, elle est hyper importante, cette prise de conscience. Mais j'aime aussi ce côté très concret de, vous êtes dans la situation. Vous avez tous les deux des aspirations que vous avez envie de réaliser. Du coup, concrètement, comment est-ce que vous allez mettre tout ça en place? Et c'est aussi hyper fort, du coup, de pouvoir s'adresser à un couple. Parce que la conciliation des temps de vie, quand on est en couple, forcément, elle se gère aussi avec son ou sa conjointe, on va pas la gérer seule. Donc ça, c'est une piste qui est hyper intéressante et que je trouve très concrète et que j'aime bien appliquer.
Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir constater qu'il y a des possibilités de mettre en place ce dialogue-là, cet échange, et de pouvoir avancer sur ces thématiques-là. Selon toi, c'est quoi qui fait vraiment que ça va mener à des façons de travailler, de collaborer plus justes, plus égalitaires, si on questionne ces sujets-là?
Bon, déjà, effectivement, il y a le fait que, travailler sur parentalité conciliation des temps de vie, effectivement, ça a un impact concret sur l'égalité femmes-hommes, comme on l'a discuté tout à l'heure. En fait, je pense que c'est permettre, en fait, l'expression, du coup, de vulnérabilité au sein de l'entreprise, et c'est aussi permettre, des espaces d'échange sur ces sujets-là. Et qu'en fait, ça, on peut le faire pour la parentalité, mais effectivement, on peut le faire pour tout. En fait, on peut le faire pour les personnes qui sont aidantes. On peut le faire pour les personnes qui sont en situation de handicap. On peut le faire pour des personnes qui sont en minorité dans leurs entreprises. Enfin, en fait, du coup, ça, c'est juste... C'est une démarche qui, finalement, est commune pour toutes, finalement un peu toutes les discriminations et un peu toutes les inégalités, quoi.
Ça permet de... En tout cas, c'est une porte d'entrée, comme tu parlais des personnes aidantes ou le handicap, etc. Ça fait partie des portes d'entrée qui amènent à se questionner sur comment on fait que l'entreprise et le monde du travail, de manière générale, soient plus inclusifs et plus égalitaires.
Exactement. Et en fait, aussi, ce que je veux dire, c'est que... Donc, effectivement, c'est des portes d'entrée, c'est des... c'est un état d'esprit, en fait. Si on commence à... se dire à intégrer par exemple la parentalité en entreprise de manière positive, il y a de fortes chances qu'on intègre aussi par la suite par exemple les personnes aidantes de manière positive et qu'on intègre aussi de manière positive les personnes en situation de handicap ou et d'autres personnes qui peuvent être aussi en situation de minorité en fait. Donc c'est parce que ça veut dire que c'est une prise de position de l'entreprise qui va accepter du coup un peu cette vulnérabilité et cet espace d'échange. Si elle l'accepte pour un sujet, elle l'acceptera pour d'autres. Donc c'est en ça aussi que ça peut faire évoluer les mentalités. Et puis de manière aussi globale, c'est que vraiment en fait la conciliation des temps de vie, pour moi, c'est quelque chose qui est inclusif dans le sens où en fait tout le monde y est confronté. Donc, en fait, on va effectivement, l'angle qu'on a pris, enfin, moi, en tout cas, que j'ai pris avec À Part Entière, c'est vraiment, d'abord d'aller parler aux parents parce que c'est ceux qui se retrouvent à un moment donné le plus, on va dire, sur la tangente par rapport à cet équilibre-là. Mais bien évidemment que c'est un enjeu pour tous les collaborateurs. Et donc, le fait de le mettre sur la table pour les parents, ça va aussi permettre de le faire progresser pour l'ensemble des collaborateurs. Donc, c'est aussi permettre ensuite, après, des pratiques et des mesures dans l'entreprise favorables à tous par rapport à cette conciliation.
En t'écoutant, je trouve ça chouette parce qu'effectivement, de se rendre compte que ça touche tout le monde, forcément, c'est un sujet qui permet d'inclure tout le monde, en fait. J'aimerais bien que tu nous expliques en fait comment toi t'en es arrivé à traiter ce sujet de la parentalité en fait dans ton cheminement professionnel suite à ton déclic quand t'es devenue maman. Pourquoi particulièrement la parentalité?
En fait, pour moi, ça a été vraiment la découverte d'un monde insoupçonné, que ce soit du coup par rapport à mes enfants, à mes filles, où en fait j'ai découvert des choses. Enfin, j'avais 30 ans quand j'ai eu ma première fille, et du coup je me suis dit, mais c'est pas vrai de découvrir ça à 30 ans. Et puis il y avait aussi ce côté effectivement découverte en fait que la vie professionnelle était complètement différente avec un enfant. C'est vrai que je m'étais pas du tout projetée moi là-dedans. Et oui, ça peut être source d'inégalités professionnelles. Alors qu'avant, on m'aurait dit des inégalités entre hommes et femmes ou entre femmes et hommes. Non, j'en ai jamais vu parce que j'avais pas encore 30 ans, j'avais pas d'enfant et j'avais jamais réalisé ça. Et en fait, ça a été pour moi une manière de le réaliser. Et du coup, quand moi j'ai vécu ça, en fait, j'ai commencé à en parler autour de moi et je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas la seule à vivre en tout cas ce retour du congé maternité de manière assez brutale. Pour plein de raisons, il y a plein de raisons différentes pour ça. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment quelque chose à faire autour de ce sujet-là, encore quelque chose qui n'est pas traité. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu envie en fait de m'attaquer à ce sujet-là. Donc, pour l'aspect un peu professionnel, donc comment est-ce qu'on allie carrière et parentalité, et pour l'aspect aussi un petit peu, plus perso de connaissance de l'enfant, en fait, connaissance des enfants, et un peu vulgariser toutes ces connaissances aussi. Pour qu'elle soit accessible à tout le monde.
Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que finalement, tu as vécu le problème que tu essayes de régler aujourd'hui et de lutter un petit peu contre les effets négatifs de justement de cette parentalité qui survient dans une vie et qui n'est pas forcément du coup accompagnée après dans la sphère du travail, quoi.
Ouais, exactement.
Non, bah, c'est intéressant. Et du coup, au regard de ton vécu personnel et de ce que tu fais aujourd'hui avec Apparentière, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes parents salariés ?
Oui, il y en a plusieurs. Après, ça dépend vraiment des phases dans lesquelles ils sont. Je dirais que pour les futurs et jeunes parents, pour les futurs parents, je dirais que c'est hyper important de bien communiquer avec leur manager, de bien aussi s'informer sur leurs droits. Parce que on n'est pas toujours au courant de ce à quoi on a droit. Par exemple, les rendez-vous médicaux obligatoires peuvent se prendre sur l'heure du travail et c'est légal en fait. L'entreprise n'a rien à dire à ça, par exemple. Donc ça, c'est comme aussi, je pense que c'est important que chaque aussi personne puisse savoir ça. Oui. Après, je dirais aussi que c'est peut-être intéressant de construire un peu. Donc, encore une fois, quand on est futur parent, en tout cas, quand on est en attente d'un enfant, enfin, qu'un enfant va arriver, et qu'on va s'absenter de l'entreprise, je trouve que c'est aussi intéressant de vraiment échanger avec son manager ou ses collègues et de se dire, mais finalement, c'est quoi le lien que j'ai envie de garder avec l'entreprise? Est-ce que j'ai envie d'être informée tous les mois? Est-ce que j'ai pas du tout envie d'avoir de nouvelles? Parce que je trouve que c'est important aussi de se poser ces questions de lien qu'on veut garder. Et aussi de quand on reprend le travail, donc notamment là je pense pour les femmes après un congé maternité, de se dire comment je me remets aussi dans des conditions, on va dire, favorables et optimales pour retourner travailler. Donc pareil, une petite prise de contact en amont pour connaître un petit peu tout ce qui a changé, les nouvelles personnes, ceux qui sont partis, je sais pas, est-ce qu'il y a des grandes stratégies qui sont arrivées entre temps. Enfin, en fait, je trouve que c'est important aussi un peu de se remettre dans des conditions, enfin en tout cas moi c'est ce que j'observe, dans des conditions qui nous soient favorables à un retour de congé maternité, par exemple. Après, ce que je dirais aussi, c'est que c'est hyper important, c'est des trucs un peu bateaux, mais voilà, que l'organisation, c'est quelque chose d'hyper important pour concilier vie pro, vie perso. Il y a plein de petites clés pour s'organiser. Je pense que ce qui est hyper important aussi, c'est de pas s'oublier en fait. C'est vraiment de penser à soi. Donc effectivement, il y a la vie professionnelle, il y a la vie familiale, mais il y a aussi les loisirs, il y a aussi la vie sociale, les amis. Il y a aussi potentiellement le développement personnel. Enfin, il y a énormément en fait de dimensions dans une vie. Et je pense que on est les parents et en fait chacun est la personne la plus importante pour soi. On est la personne la plus importante pour soi. Et c'est hyper important du coup d'en prendre soin et aussi du coup de bien identifier quelles sont ces sources d'énergie et ces activités ressources, parce que on arrive tous à des moments où on est fatigué, on a des énergies qui sont basses. Du coup, comment est-ce qu'on fait en fait pour se ressourcer et pour retrouver de l'énergie? Donc c'est hyper important, je trouve, d'identifier ces activités qui nous font du bien. Donc est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est aller boire un coup avec des amis? Est-ce que c'est marcher seul dans la nature? Voilà, mais en fait que chacun, est-ce que c'est écouter de la musique? Mais en tout cas, en être conscient et s'accorder du temps pour ça régulièrement, je dirais à minima une fois par semaine.
Bah oui, en fait, prendre soin de soi, en gros, peut aider à déjà être plus serein, et ça c'est
exactement
cool, et du coup, peut-être mieux concilier justement la vie pro et la vie perso, parce que voilà, on est plus au clair avec ses envies, ses besoins, on prend soin de soi, et du coup, on est plus équilibré certainement.
Exactement.
Et est-ce que, parce que je sais que toi, ton sujet, c'est surtout les entreprises et donc du coup les salariés d'entreprise, mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les parents qui sont entrepreneurs, indépendants, artisans, libéraux, parce que c'est complètement différent au niveau de l'impact que ça a sur les carrières, mais comment est-ce que eux peuvent être aussi accompagnés, par exemple?
C'est hyper intéressant parce que justement, c'est un gros sujet, l'entrepreneuriat, en particulier chez les femmes et la parentalité. C'est un énorme sujet. Je n'ai pas toutes les réponses et je sais que c'est un vrai challenge. En fait, on n'en parle pas de l'entrepreneuriat et de la parentalité et c'est hyper dur à gérer parce que je pense que c'est dur parce qu'on a peut-être tendance à travailler, du coup, à faire un congé maternité, enfin, à travailler jusqu'au bout autant que possible.
Enfin, moi, le conseil que je donnerais, voilà, chacun est vraiment bien évidemment libre de faire évidemment ce qu'il veut. Je pense qu'en fait, effectivement, donc, ce que toutes les personnes que tu as citées avant, donc c'est des personnes qui sont normalement un peu plus libres de leur temps, mais qui ont aussi une grosse pression du travail pour avoir justement, pour gagner leur vie. Et donc, effectivement, quand la parentalité arrive, comment on fait ? Quelle place on accorde et quel temps on accorde ? C'est un vaste sujet, hein, mais je dirais que moi, déjà, ce qui me semble important, c'est à partir du moment où le bébé arrive, donc quand on est en congé maternité, je pense qu'il est important de s'accorder une vraie pause consacrée à soi et à son bébé.
Voilà. Oui, et puis ça reste prioritaire finalement de prendre soin de soi et de sa vie perso, même si c'est plus compliqué à mettre en place quand on est entrepreneur, indépendant. Parce qu'il y a effectivement, comme tu le disais, quand même potentiellement un facteur économique qui est à prendre en compte, c'est pas si facile que ça, mais en tout cas, c'est quand même important de garder à l'esprit. C'est important de se préserver et que la vie perso quand même pèse un peu plus que le
ouais. Pouvoir. Je pense que effectivement c'est hyper important de se préserver, même s'il y a cette pression, financière. J'ai envie de dire que s'il n'y a pas la pression financière et que vous êtes entrepreneur, que vous êtes libéral, c'est hyper cool aussi de pouvoir se dire je m'octroie peut-être un peu plus que justement la moyenne, quoi. Et pour pour la maman et pour le papa ou le second parent d'ailleurs.
Oui, ça s'applique aux deux, hein.
Aux deux, parce que si par exemple le papa ou le second parent est entrepreneur ou libéral et qu'il y a cette possibilité dans son activité de prendre un peu plus de temps, je pense que c'est une superbe opportunité à saisir.
C'est vrai que ça peut être chouette de profiter de ces moments-là quand on a la possibilité, en tout cas, de le faire. C'est bien de l'avoir en tête, en tout cas. J'ai une toute dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets-là et qui voudrait, par exemple, orienter ses activités pro sur les thématiques de parentalité liées à l'équilibre vie pro perso et l'impact que ça peut avoir sur les carrières? Quel conseil tu donnes à quelqu'un, par exemple, en termes de posture ou de compétences ou d'expérience pour pouvoir se lancer, tu vois, sur ces sujets-là?
Alors, franchement, j'ai envie de dire juste que s'il y a la passion du sujet, faut y aller. Après, en termes de compétences et connaissances, si on les a pas toutes, et ce qui est bien normal, personnellement, je les ai pas toutes non plus, je me suis entourée d'experts, en fait. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est de s'entourer des bonnes personnes pour avoir une expertise globale. Je pense que c'est ça qui est important sur ces sujets-là. Après, je sais qu'il existe différentes formations. Par exemple, tout dépend de ce que ces personnes-là ont envie d'être. Ils ont envie d'être, par exemple, des coachs, un peu des coachs parentaux qui aident justement à l'équilibre vie pro-vie perso. Je sais qu'il y a des formations qui existent, par exemple, une formation qui s'appelle Calmer Parenting. C'est une formation qui est possible. Après, il y a des coachs qui sont coachs formés au développement personnel et professionnel qui se sont spécialisés aussi dans tout ce qui est parentalité suite à leur vécu. Donc, il y a plusieurs voies, en fait, pour arriver à ça.
Ouais.
Moi, je dirais juste que c'est, pour avoir les compétences, c'est soit se former soi-même, soit s'entourer de personnes qui les ont, en fait.
Super. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Peut-être que ça va inspirer des personnes qui ont envie d'orienter leurs activités professionnelles sur ces thématiques-là qui sont intéressantes et importantes, je pense, pour contribuer à un futur du travail plus juste, plus inclusif, plus solidaire aussi. Et je trouve que c'est chouette de t'entendre parler de ces sujets-là. Et du coup, merci à toi de t'impliquer sur ces questions-là. Et merci beaucoup, Marie-Charlotte, pour tes éclairages sur la parentalité de manière générale et l'impact qu'elle peut avoir sur les carrières professionnelles, qu'elles soient celles des mamans ou des papas d'ailleurs, ou des seconds parents. Donc, merci beaucoup à toi pour tous ces échanges.
Merci beaucoup Hélène, c'était super comme échange et je trouve que ces enjeux vraiment du monde du travail de demain, moi aussi je suis passionnée par ça, Je suis sûre qu'on est dans une grosse évolution, révolution, et que énormément de choses ont changé. Donc, je trouve ça génial qu'il y ait un podcast qui puisse en parler. Donc, bravo.
Merci beaucoup, Marie-Charlotte. C'était super intéressant cet échange avec Marie-Charlotte. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont marquée. Alors déjà, c'est de se rendre compte que finalement, mettre en place des choses au sein de l'entreprise pour accompagner les futurs et les jeunes parents relève d'abord en fait d'une vision et de valeurs portées par l'entreprise. Ensuite, ce qui m'a marqué, c'est de s'apercevoir aussi que la gestion du congé maternité, paternité et du congé parental a effectivement un impact sur la carrière et notamment celle des femmes, et qu'il est hyper important en fait d'en réduire les effets négatifs. Et aussi ce que je retiens de cet échange, c'est que les sujets liés à la parentalité en entreprise et du coup à la conciliation des temps de vie, c'est aussi une porte d'entrée en fait pour aborder d'autres sujets comme le sujet des aidants en entreprise ou le sujet du handicap, afin d'aller vers plus d'égalité et d'inclusivité dans la sphère professionnelle.
Ouais, moi je voulais rajouter une petite info qui finalement passe souvent inaperçue, ou en tout cas qui n'est pas forcément tout le temps utilisée, c'est que le congé parental est obligatoire en fait jusqu'aux 3 ans de l'enfant, dans le sens où l'entreprise ne peut pas le refuser, que ce soit à la maman ou au papa. Il y a peu de pères qui le savent et qui l'utilisent. Malheureusement, ce n'est pas encore possible pour la seconde maman, par exemple, ou le second papa, mais j'espère que ce sera bientôt le cas. Alors moi, ce qui m'a marqué dans ces échanges, c'est qu'en fait, il y a encore une forte représentation sociale liée à la maternité en entreprise, que ce soit de la part des managers, des directions, et que les femmes en sont victimes, et d'ailleurs 60% d'entre elles s'auto-censurent en fait volontairement pour garder un équilibre vie pro-vie perso, ce qui paraît dingue aujourd'hui. Et alors du coup, ce que je me pose comme question, c'est comment on arrive à encapaciter les femmes pour qu'elles tiennent bon vraiment, pour qu'elles ne se mettent pas systématiquement en retrait dans l'entreprise et au premier plan dans la famille, mais qu'elles osent assumer le fait qu'elles veuillent continuer à travailler, avoir des projets intéressants, voire monter les échelons.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. À bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes.